Chapitre 59. Appuyé à la balustrade de pierre, Richard contemplait la nuit. Presque assez grand pour être une cour, le balcon de ses appartements privés saillait du palais du peuple à la manière de la proue d'un navire dont il avait d'ailleurs la forme. Aucune partie du complexe ne dominait cet endroit très particulier qui semblait flotter au-dessus des plaines d'Azrit. La partie où se tenait Richard, sa préférée, était la pointe de la flèche de la proue, car on s'y sentait à la fois extraordinairement seul et parfaitement tranquille. Grâce aux genévriers en peau qui s'alignaient tout au long de la balustrade et de la façade des appartements, le sourcier éprouvait même un sentiment d'intimité des plus rares et précieux. Cet îlot de paix était le seul lieu où sa femme et lui pouvaient être seuls. Birdin elle-même n'entrait jamais sans frapper. La mort de Sitte avait travaillé dur à rassembler des recueils de prophéties. Comme tous les autres, elle avait été très surprise d'apprendre que Regula était la source de toutes les prophéties authentiques présentes dans le monde des vivants. Bien sûr, il y avait toujours eu et il y aurait toujours des gens convaincus de voir l'avenir, des illuminés dans le meilleur des cas et dans le pire, des escrocs acharnés à dépouiller les pigeons de leur argent en échangeant des versions fantaisistes de l'avenir. Les vrais recueils de prophéties, ces grimoires légitimes directement inspirés par Regula, étaient désormais livrés aux flammes. Quelques esprits prétendaient que ces ouvrages, même s'ils ne signifiaient plus rien, devaient être préservés à cause de leur valeur artistique. D'autres, s'accrochant à l'idée irrationnelle que ces prédictions étaient vraies, affirmaient que détruire les grimoires attirerait le malheur sur l'humanité. Une étrange forme de superstition quand on allait bien chercher. Pour Nathan, c'était différent. Après près de 1000 ans passés en compagnie de ses livres, il les connaissait parfaitement et l'encre des prédictions coulait dans ses veines au moins autant que son sang. Sorcier doté d'un talent particulier pour les prophéties, il restait capable d'avoir des visions quand il en lisait. Mais depuis le début, les prédictions étaient un poison mortel distillé par le royaume des morts. Pour Richard et Callan, les prophéties avaient toujours été une source de problèmes. Lors du mariage de Cara et Ben, les ennuis avaient commencé à cause de gens qui exigeaient d'utiliser les prédictions comme, comme une commodité, en les tenant pour un dû qui plus est. Depuis, tant de gens étaient morts. Malgré tout, Richard comprenait l'amour que Nathan portait à ses grimoires. Prisonnier au palais des prophètes pendant presque toute sa vie, il avait fini par les tenir pour des amis. Lui permettant de s'évader en pensée, il le conduisait dans des endroits incroyables qu'il n'avait guère d'espoir de voir un jour de ses yeux. C'était sans doute pour ça que le vieil homme continuait à s'habiller comme un aventurier, un chevalier du réel bien ancré dans le monde. Certes, mais les prophéties restaient une création du royaume des morts. En un sens, elles étaient la mort. Au minimum, elles incarnaient la fin du libre arbitre. Et pendant que les gens les consultaient pour prendre leurs décisions, elles travaillaient au déclin de l'humanité, parce que tout ce qui venait d'elles était marqué du sceau de la mort. Aujourd'hui s'ouvrait une ère où le libre arbitre serait roi. Nathan ne déplorait pas moins l'autodafé de ses vieux compagnons. Compatissant, Richard lui avait dit de choisir la bibliothèque qu'il voulait au sein du palais, voire d'en sélectionner plusieurs, et d'y entreposer tous les grimoires qu'il souhaitait préserver. Les autres finiraient en cendres, car les prophéties étaient mortes. Nathan ayant enfin l'occasion de vivre comme un aventurier, il se pouvait très bien que les recueils de prédictions soient très vite un vague souvenir pour lui. Entre le palais du peuple et les terres noires, beaucoup d'endroits avaient été dévastés par Sulakan, Anis Ark et les hordes de Shuntuk. Nommé ambassadeur itinérant du seigneur Ral, Nathan irait de ville en village afin de voir ce qu'on pouvait faire pour les victimes. Un grand nombre de Shuntuk s'étaient portés volontaires pour cette noble mission. Les autres avaient demandé à retourner dans les terres noires, le seul foyer qui leur restait. Alors qu'il était parti depuis quelques semaines à peine, Nathan manquait déjà à Richard. À la grande surprise du sourcier, Callan, elle, disait avoir vu le coup venir depuis très longtemps, Nietzsche avait décidé de partir avec Nathan, pour lui tenir compagnie officiellement. Bref, pour éviter qu'il se fourre dans la mouise. Le destin avait quelque chose d'ironique, décidément. À l'époque où il était prisonnier, le vieil homme n'avait jamais pu mettre le nez hors du palais des prophètes sans qu'une sœur lui colle au basque. Pour mieux le contrôler, ses femmes lui avaient même mis un collier autour du cou. Aujourd'hui, une sœur de la lumière l'accompagnait de son propre chef et sans lui imposer de contraintes. Richard souhaitait à Nietzsche de trouver le bonheur. Si son départ le chagrinait, il comprenait ses motivations. Bien entendu, elle lui manquait. Incapable de dire quand elle reviendrait, il supposait que ça dépendrait du moment où Nathan commencerait à lui taper sur les nerfs. Présentée comme ça, il s'étonnait qu'elle ne soit pas déjà de retour, mais elle reviendrait un jour. Cassia et Val se réjouissaient de vivre de nouveau au palais sous le règne d'un seigneur Hall très différent du précédent. Aussi baroudeuse que Kara, Cassia adorait partir en patrouille avec les hommes de la première phalange qui ne s'en plaignaient pas. Pour sa part, Val passait beaucoup de temps avec Burdine. Les deux Mordecites adoraient tenir des messes basses. Conciliant, Richard faisait mine de ne pas s'en apercevoir, et elle lui en était reconnaissante malgré leur sourire moqueur. Vika vibrait de bonheur parce qu'elle était enfin en mesure de choisir sa vie. À un moment clé, Richard lui en avait donné l'occasion, l'encourageant à prendre une décision difficile. En conséquence, elle avait décidé de remplacer Kara auprès du seigneur Hall et de la mère inquisitrice. Bien entendu, Richard n'avait pas eu son mot à dire sur le sujet. On avait quand même daigné l'informer, mais tout juste. Très franchement, tout ça lui convenait très bien. Vika ne s'était plus jamais excusée d'avoir utilisé son agiel sur lui. Une bonne chose, le passé ne comptait plus. En revanche, elle avait parfaitement compris ce qu'elle risquait si elle ne restait pas à sa place. Devenir la risée de ses collègues ne lui disant rien, elle se montrait impeccable, enfin à sa façon. Pour elle, rester à sa place était une notion des plus relatives. Là encore, Richard trouvait ça parfait. Avec Callan, il avait fait un rapide saut à la forteresse. Avant de partir, Nietzsche s'était servi de la magie soustractive sur Vika afin qu'elle puisse voyager dans la Slife et veiller sur ses protégés. À la forteresse, les deux époux avaient mis tout le monde au courant des derniers événements. Un choc terrible pour les sœurs de la lumière, car rien de tout ça ne correspondait à ce qu'on leur avait enseigné au palais des prophètes. Andine dame abbesse, Verna s'était efforcée de leur présenter les choses sous un jour acceptable. Bien entendu, la fin des prophéties avait été dure à avaler pour des femmes qui leur avaient consacré leur vie. Richard n'avait pas pu leur faire accepter la vérité, mais elles y viendraient avec le temps. Grâce au message de Warren transmis par le sorcier, Verna avait retrouvé presque toute son énergie et sa détermination. Désormais, elle se sentait capable d'aller de nouveau de l'avant. Si tout se passait bien, Richard et Callan envisageaient un plus long séjour en Aydinril, où ils se partageraient entre la forteresse du sorcier et le palais des inquisitrices. Ensuite, pourquoi pas un petit voyage en terre d'ouest? Se glissant derrière son mari, Callan lui posa une main sur l'épaule et se serra contre son dos. Elle ne portait pas grand-chose sous sa chemise de nuit, constata-t-il agréablement troublé.
Tu viens bientôt te coucher?
Oui. Regarde le ciel au nord. Tu vois ces lumières? Elles brillent plus que d'habitude ce soir.
Tu crois que ce sont des âmes égarées qui se réunissent pour regarder leur ancien foyer?
Non. Toutes ces âmes, nous les avons aidées. Celles qui n'avaient plus de place en ce monde ont trouvé la paix éternelle dans l'autre, sous la protection de la grâce.
Je suppose,
souffla Callan en admirant le ciel nocturne vierge de nuages. Par-dessus son épaule, Richard jeta un coup d'œil à la chambre aux portes ouvertes. Ce lit a l'air confortable. Dans la chambre, les manuscrits soleiliens soigneusement emballés étaient alignés sur les étagères d'une vitrine. L'un d'eux, posé sur un support, se trouvait devant tous les autres. Le manuscrit du cœur de la guerre. Le vieux scribe Moller avait apporté les textes à Richard. Acceptant son invitation, il résidait désormais au palais. Avant de partir en mission, Nathan avait soigné les mains ratatinées par l'arthrose du vieil homme. Après des années à souffrir, Moller n'en revenait pas que ce soit terminé.
Richard, quelque chose ne va pas.
Quoi donc? Demanda le sourcier en se retournant.
Le ciel? Jusqu'à ce soir, je n'y avais pas fait attention, mais les étoiles ne sont pas à leur place.
Bien sûr que si.
Callan secoua la tête. Non, je suis sérieuse, Richard. Rien n'est plus comme avant, et je ne reconnais aucune constellation.
Callan posa une main sur sa poitrine. Richard vit qu'elle respirait plus fort, son cœur battant sûrement la chamade. Il sourit et prit les mains de sa femme. Tout est en ordre, Callan. Les étoiles sont là où il le faut.
Non, elles n'étaient pas là avant.
Mais elles sont à la place qui est la leur désormais.
C'est vrai, ce n'est plus comme avant.
Mais c'est normal.
Que me racontes-tu encore?
Richard désigna le firmament. La déchirure spectrale s'est refermée, et le conte crépuscule est définitivement interrompu. Un changement stellaire a eu lieu.
Callan regarda les étoiles puis dévisagea son mari. Tu veux dire que les astres ne seront plus jamais comme avant?
C'est ça. Mais à partir de maintenant, ils resteront comme nous les voyons. Il faudra répertorier et nommer les nouvelles constellations.
Mais elles ne changeront plus? Leur configuration sera à tout jamais la même? Ces constellations seront-elles de fidèles compagnes? Dans 1000 ans, les gens contempleront-ils un ciel nocturne semblable à celui-là?
Je réponds oui à toutes tes questions.
C'est rudement impressionnant.
Richard se pencha et embrassa sa bien-aimée. Quand ils se séparèrent, tous les deux respiraient un peu plus vite.
S'il y a vraiment eu un changement stellaire, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Que nous réserve l'avenir et comment nous y engagerons-nous sans le soutien des prophéties?
Un changement stellaire, c'est le début d'une nouvelle ère.
Callan sonda le ciel. Le début d'une nouvelle ère? Richard, à quoi ressemblera-t-elle cette nouvelle ère?
Le sourcier eut un grand sourire. À un âge d'or. Après le changement stellaire, plus rien ne sera pareil.
Un âge d'or, oui.
Callan sourit aussi.
J'aime bien cette idée.
Soudain, elle se rembrunit.
Tu es sûr que nous sommes au début d'un âge d'or?
Absolument. Je te le jure sur tout ce que j'ai de plus cher.
Les sorciers tiennent toujours leurs promesses.
C'est vrai. Et c'est le premier sorcier, le cœur de la guerre, qui vient de te faire celle-là.
Vous venez d'écouter L'épée de vérité, livre 15, Le cœur de la guerre. De Terry Goodkind, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Vincent Deboire. Une production Audible Studio.